Bonjour à tous, et voilà, il est midi et les langues vont s'aiguiser. C'est normal, le débat de midi sur France Inter rentre en scène, joie, bonheur et trompette lustrée. Enfin, il est revenu, comme le week-end fut long, hein, sans le débat de midi, mais enfin, la semaine peut commencer, dire que certains sont en vacances, n'importe quoi. Que vous soyez à la plage, en cuisine, bloqué dans les embouteillages, ou que vous soyez en francophonie, ce sujet va vous parler, car nous allons évoquer la langue. Alors, le français est-il en déclin? Une enquête du service statistique du ministère de l'Éducation montre en décembre dernier que le niveau orthographique des pioupiou en CM2 avait chuté. À dictée équivalente, les enfants de la fin des années 80 faisaient moins de fautes que ceux d'aujourd'hui. Alors il est vrai que l'orthographe n'est pas des mieux traités dans les mails, sur les réseaux sociaux ou dans les textos. Chose amusante, selon une étude IFOP, les Français surestimeraient leur niveau en orthographe. Après une dictée, l'institut de sondage aurait constaté que seuls 58% des sondés ont un bon niveau en orthographe, alors qu'ils sont 62% à s'inquiéter de la baisse du niveau en général. C'est assez contradictoire. Alors, c'est qui a raison, hein? Alors, si beaucoup pleurent la maltraitance de la langue, d'autres parlent d'évolution et de vivacité linguistique, qu'en est-il exactement? Les fautes d'aujourd'hui constitueront-elles le langage de demain? Une émission qui vous aidera à bien écrire vos cartes postales. Oui, on est assez vieux jeu, ce sujet. Et la maîtrise du langage François, qu'en pensent les grandes plumes? C'est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis 45 ans qu'on commence à s'en apercevoir, disait l'écrivain Colette. Voilà, hein, qui peut décomplexer. À vous aussi de participer via l'appli France Inter avec vos messages vocaux et écrits. On vous attend. Quelle heure est-il? Eh bien, c'est l'heure du débat de midi.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour en parler, la table du débat de midi accueille Aurore Poncenet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne orthophoniste, créatrice d'une méthode de grammaire simplifiée, formatrice en orthographe, autrice notamment du français pour adultes consentants, on peut dire, et la dictée coquine aussi, épisode de 1 à 15, voilà, faut le préciser, même dictée érotique pour pimenter votre orthographe. Ça a été paru en 2020. Également, Christophe Benzitoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en français parlé, orthographe, grammaire, corpus, enseignement de l'oral. Vous êtes maître de conférences en sciences du langage. En 2021, vous avez écrit le livre « Qui veut la peau du français ?» et vous êtes membre du collectif « Les linguistes atterrés » et vous co-signez le tract Gallimard « Le français va très bien, merci » avec une quinzaine d'autres linguistes. Et puis, Louise Touré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste éducation à France Culture et dans l'émission « Être et savoir ». Alors justement, Louise, quand j'ai dit tout à l'heure que le français n'était pas en très bonne forme, est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs?
Ah, le français, ça va. Après, c'est les locuteurs qui sont jugés de telle ou telle manière. Moi, je peux parler des résultats scolaires. Donc, on a des évaluations parce que l'école transmet les règles de grammaire, les règles de l'écrit, surtout. Hein, depuis le 19e siècle, il y a une montée en puissance de l'écrit qui s'est faite avec la scolarisation de tous les Français. Ça, c'est quelque chose de très important. Le bac, au début, c'était à l'oral. Juste à l'oral, en 1830.
D'accord.
Et puis, au fur et à mesure qu'on a scolarisé la population, on a passé des concours, on s'est jugé sur l'orthographe. C'est devenu de plus en plus important. D'ailleurs, je crois que c'est dans le livre des linguistes atterrés. Mais c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on regarde l'état de l'école. Et depuis 1987, il y a cette étude sur les dictées. Donc, Daniel Manès et André Chervel avaient fait une étude pour comparer des linguistes et des spécialistes de la langue française. Mais ce n'était pas spécialement pour dire que les petits Français étaient nuls. Mais ils avaient voulu comparer le niveau de 1873 et de 1987. Effectivement, moi, c'est un peu ma génération, 1987. On fait beaucoup plus de fautes déjà en 87 qu'en 1873. Mais aussi, on fait plus de fautes. Pourquoi? Parce que entre cette génération et par exemple celle de mes parents, bon, qui sont quand même nés au XXe siècle, l'apprentissage du français a évolué. On a fait plus de choses à l'école élémentaire et ça, c'est pas mal, hein, du point de vue des parents. Nous, peut-être qu'on n'aimerait pas que nos enfants fassent que du par cœur et que de l'orthographe. Donc, on a arrêté de faire de la dictée punitive. Mais il ne faut pas croire non plus que tous les élèves de l'époque du certificat d'études faisaient très peu de fautes d'orthographe. D'abord, il y avait plein de gens qui n'allaient pas à l'école. Il y avait plein de gens qui étaient sortis de l'école plus tôt. Et il y avait plein de gens qui n'étaient pas présentés au certificat d'études, etc. Donc, il y a aussi des points sur lesquels on peut relativiser.
C'est justement ce qu'on va voir. Alors vous pouvez bien sûr participer à l'émission via l'appli France Inter avec des notes vocales et également des messages. Et Alors même si on parle de français, je vais utiliser un anglicisme. Vous pouvez participer via WhatsApp hein, au numéro suivant, le 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. N'hésitez pas, on attend en tout cas vos commentaires sur le français. Et alors c'est vrai que généralement, quand on dîne avec sa famille, quand on lit des articles, on voit eh bien un catastrophisme autour du français. Et Christophe Benzitoun, alors vous ne semblez pas du tout catastrophé par le niveau de la langue parlée dans notre pays. Au contraire, vous dites même que eh bien, ça irait presque mieux.
Oui, en fait, il faut distinguer deux réalités qui sont bien, alors, qui ont été introduites tout à l'heure. Oui. C'est la langue française du quotidien qui se porte très bien. Voilà, c'est le français qu'on utilise tous les jours, qui s'adapte à Internet, qui est une langue mondiale et qui se porte très bien, qui a de plus en plus de locuteurs. Et il y a la forme de référence qu'on enseigne à l'école, notamment plutôt basée sur l'écrit. Et ce qui se cache derrière aussi, c'est la notion de règles. C'est-à-dire qu'il y a deux types de règles en français. Il y a les règles qu'on va enseigner à l'école et les règles qu'on utilise inconsciemment. Alors, je vous prends deux exemples. Si on prend l'exemple de, si je dis par exemple, la saison prochaine... Kevin De Bruyne jouera à Marseille, ben, je vais utiliser la saison prochaine. Si je vous dis la prochaine saison des Marseillais à Cancun, je vais utiliser la prochaine saison et pas la saison prochaine. Et ça, c'est des règles inconscientes qu'on négocie tous en permanence et qu'on n'enseigne pas à l'école. Et ça, en fait, ça fonctionne très bien. Ça passe par de génération en génération entre les parents, les enfants, l'école, etc. Et ça fonctionne très bien. Un autre exemple que je peux vous prendre, donc si je vous dis « c'est fort bien », on va considérer que je parle très bien. Si je vous dis c'est grave bien, on va considérer que je parle pas bien. D'un point de vue linguistique, c'est le même phénomène. D'accord ? Au départ, d'accord. Fort est un adjectif qui devient un adverbe. Grave est un adjectif qui devient un adverbe. Donc d'un point de vue linguistique, c'est la même chose. Et c'est juste la manière dont on conçoit les registres de langue et ce qui est accepté ou pas qui va jouer. Mais d'un point de vue linguistique, ouais, ça se porte bien, la langue évolue, et c'est juste le regard qu'on porte sur la langue qui évolue dans le mauvais sens. Mais la langue évolue bien.
Aurore Ponsonnet, pour vous, ça évolue bien, ou alors vous êtes aussi faites partie, quand vous voyez les niveaux de français, vous dire, ah ben c'est catastrophique, parce qu'on parle et on maltraite de plus en plus cette langue française.
Oh, je n'utilise jamais ces mots-là de maltraitance, mais jamais, jamais. Moi, je suis plus dans la solution, c'est-à-dire comment transmettre de manière joyeuse, bienveillante, même si ce mot est un peu galvaudé, on l'utilise à toutes les sauces, mais comprendre. Alors, par exemple, quand on m'interpelle pour me dire « t'as vu, machin, il a fait une grosse faute », je dis « ben moi, je vais plutôt regarder l'erreur et m'intéresser au raisonnement de la personne. Pourquoi elle a fait cette erreur? Quel est son raisonnement? Comment elle est arrivée à écrire comme ça ?» Et c'est ça qui m'intéresse parce que j'essaye de trouver toujours des solutions. Mmh. Moi, je suis dans la solution et suis pas dans le constat catastrophique.
Mais tout de même, est-ce que vous le constatez, tout de même, ça? Est-ce que on le voit? En effet, on a l'impression que quand on lit des mails, que le niveau de français, eh bien, n'est pas véritablement un haut niveau actuellement.
Alors, vous avez utilisé le bon mot, c'est impression. On écrit beaucoup plus qu'avant, ça c'est une évidence. Avant, des personnes, alors moi, quand j'étais orthophoniste, je recevais aussi des adultes qui étaient très complexés par leur orthographe. Et j'ai vu l'évolution entre ceux qui avaient une secrétaire, donc il y avait des personnes qui avaient un bac plus 6, 7, 8, qui avaient des complexes énormes. Ils avaient une secrétaire, donc ils dictaient ce qu'ils avaient à écrire. Et un jour, ils m'ont dit « Aurore, je suis désespérée, maintenant j'ai un ordinateur, je dois écrire tout seul, personne ne va me relire ». Personne va taper mon courrier. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, on s'est caché plus ou moins, parce que je pense que tout le monde a eu des difficultés en orthographe à tous les niveaux socio-culturels, et qu'on se cachait. Et que maintenant, on écrit toute la journée, on envoie des textos, on laisse des traces écrites, on écrit sur les réseaux sociaux et on est jugé en permanence sur son orthographe.
Vous diriez que l'aide même orthographique fournie par les ordinateurs ou par les téléphones, c'est une bonne chose, par exemple?
Oui, et on devrait d'ailleurs l'enseigner à l'école. Il y a une chose très importante à dire aussi, c'est qu'il y a l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale. Et je pense qu'on devrait passer beaucoup moins de temps à enseigner l'orthographe lexicale et toutes ces petites exceptions. Attention, appeler à 2P, apporter aussi, mais apeurer, il n'y en a qu'un, voilà. Et qu'on devrait se concentrer sur la grammaire.
Alors,
le sens.
On va en parler de ça, Lousteau.
En fait, moi, j'anime des ateliers avec des élèves, souvent. Alors, c'est plutôt des ateliers oraux, mais je les vois écrire. J'ai un peu enseigné. Et c'est vrai que je pensais au départ que les fautes d'orthographe, c'était des histoires de doublement de consonnes, de lexique. Et elle est difficile, cette orthographe en français, parce que la logique n'est pas toujours présente. Mais en vérité, ce qu'on peut constater quand on voit des élèves écrire, certains élèves, hein, pas du tout tous, c'est que... il y a des élèves qui sont perdus dans la syntaxe, qui maîtrisent pas les... Alors, je donne pas un jugement général hein, sur les élèves français, mais qui sont perdus dans les homophones, qui savent pas faire la différence, par exemple, entre c'est, et qui vont écrire à la place de c'est, est, sait. Et alors là, on est complètement affolés. Et quand on loupe une marche, en français, c'est un peu difficile à rattraper. Moi, je pense que rien n'est irrattrapable. Mais que ça nécessite un travail un peu systématique pour certains enfants. Ce que je constate aussi à l'oral, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'une des difficultés du français, et je pense qu'on fait tous des erreurs, hein, là, autour de la table, ça peut aussi nous arriver, c'est toutes ces subordonnées. Et quand j'ai enseigné français, j'ai complètement galéré, parce qu'en fait, les noms ont changé en plus.
Vous vous rendez compte que les noms, là, d'un coup, subordonnées, ça revient comme ça, d'un coup, en mémoire.
En fait, les règles de grammaire. Et donc, c'est des gens qui font des phrases... ils vont dire c'est le sujet que je t'ai parlé au lieu de don, par exemple. Ça revient souvent. Alors, surtout chez les enfants jeunes, hein, beaucoup moins chez les adultes. C'est pas forcément. Enfin, ça sonne mal. Alors, est-ce qu'un linguiste peut nous dire. Ben, finalement,
c'est
peut-être que Flaubert l'écrit.
Non, c'est très vieux,
Donc, voilà. Les linguistes, c'est vrai, vont souvent à nous apporter la preuve qu'en fait, il y a une bonne logique derrière. Mais ça peut heurter un peu les oreilles. Par exemple, moi, si sur France Culture, je me mets à parler comme ça, je vais avoir des mails d'auditeurs. C'est pas très grave. Mais, et donc, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, sur ce maniement des phrases longues, une espèce de logique d'ordonnancement des phrases et tout ça, il y a beaucoup. Je trouve qu'il y a, et moi je dis il y a par exemple. J'ai déjà eu des lettres d'auditeurs là-dessus,
exactement.
Parce que c'est vu comme du mauvais français.
Pour aller dans votre sens, Louise, il y a Hélène qui nous a contacté via WhatsApp, qui nous dit en effet, aussi dans les médias, on parle mal français. Alors, moi aussi, le premier comme vous, Louise, ça arrive en effet à l'antenne, mais Christophe Benzitoun, est-ce que finalement ce français, on l'a vu, il y a tellement de particularités, est-ce que ça fait pas aussi eh bien sa richesse ? Avoir ces doublons de consonnes, toutes ces règles grammaticales qui aujourd'hui eh bien, ont du mal à être respectées, est-ce que c'est pas ça sa richesse aussi à la langue française ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout.
Ah d'accord.
Voilà, alors déjà, faut arrêter de parler de français pour l'orthographe. Voilà, le français c'est beaucoup plus large que l'orthographe, il y a l'oral, il y a l'écrit, il y a plein de subtilités. On peut jouer avec la langue, à l'oral comme à l'écrit, donc voilà. Le français c'est beaucoup plus large, encore une fois. De ce point de vue-là, le français ne se détériore pas. Je vous prends un exemple en contexte scolaire. Dans l'enquête internationale Pearce de 2021, sur 20 ans qu'elle est faite, il y a 2% de diminution du niveau, sur 20 ans. Et c'est une enquête qui porte sur la compréhension de l'écrit en CM1. Donc, il n'y a pas, voilà, il y a pas de problème particulier. Donc, c'est pour les enfants de 10 ans. Et après, alors, quand on regarde dans le détail, en fait, ce qui se passe, c'est que les enfants francophones sont parmi ceux qui écrivent le moins, en fait, qui répondent le moins. Donc, si vous prenez un QCM, par exemple, les enfants, majoritairement, vont répondre. Il y a 1% des enfants qui ne vont pas répondre. Si vous prenez une question ouverte, parce qu'il faut écrire, comme les enfants sont en insécurité linguistique, ben, ils vont avoir tendance à ne pas répondre. Donc, ça va aller de 20% à un enfant sur trois qui ne va pas répondre. Et c'est à cause, en fait, encore une fois, de notre conception de la langue. Il faut bien distinguer le français qui se porte très bien et que les gens utilisent au quotidien et qui pose aucun problème, et le regard qu'on porte et, du coup, la culpabilité qu'on fait porter aux gens qui fait qu'on se sent en mal à l'aise avec sa langue.
Pourquoi on l'a fait porter, cette culpabilité ?
Ben, à cause du fait qu'on se réduit le français à l'orthographe.
Et le mot faute, par rapport à erreur, une erreur de calcul, une erreur de calcul et une faute d'orthographe. Voilà, le faute, c'est très important de le changer, ce mot.
On a un rapport de puriste à la langue en France, quand bien même on fait des erreurs soi-même, parce que le français, c'est une langue qui est une langue d'unification du pays. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. On est quand même le pays qui a tué les langues régionales. Et pour revenir à l'école, donc je vais très vite, on évalue très tôt l'orthographe, et c'est peut-être ça aussi qui bloque les petits français. Alors peut-être trop tôt, je ne sais pas. En tout cas, on avait des forts taux de non-réponse dans des tests internationaux type PISA. PISA, c'est à 15 ans, Pearl, c'est en CM1. Pearl, c'est une étude européenne. Ce qu'on voit aussi, c'est que les différences entre les élèves de milieux sociaux défavorisés et les élèves de parents qui ont fait des études sont très importantes dans notre pays. Donc, il y a bien un problème d'adaptation de l'école, et je parle de l'école, au niveau de base des élèves à travailler. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prendre les élèves de là d'où ils viennent, avec leur français parlé, la plupart des enfants maîtrisent le français, et pouvoir les amener vers un français plus écrit, ça c'est le travail de l'école, et pouvoir le faire avec tous les enfants, et peut-être réduire, et ça l'école s'y attelle, les ministres en tout cas le disent souvent, travailler à réduire ces différences sociales à travers, dans les notes qui se retrouvent, se retrouvent dans les notes et les résultats des élèves. Élèves de lycée professionnel ont des résultats beaucoup moins bons à PISA à 15 ans, donc dans la compréhension d'écrit, que les élèves de lycée général.
Pour aller dans votre sens, en effet, le poids de l'origine et de l'environnement social est également assez notable. Les élèves d'écoles les moins favorisées font en moyenne 22 erreurs contre 15,5 observées dans les écoles accueillant des élèves plus favorisés.
Enfin, ça dépend de la profession des parents, parce qu'un un élève de parents bac plus je sais pas combien, qui lui lit des histoires tous les soirs et qui a pas de problème d'accès, de dyslexie, il n'aura pas de problème dans son école défavorisée.
Aurent, aux fautes d'orthographe, on l'a compris tout à l'heure, vous m'avez dit, moi je suis dans la solution. Mais pourtant, on voit à quel point, en effet, un mauvais orthographe peut aussi être discriminant. On le voit notamment par rapport à des messages, par rapport à un entretien d'embauche. Quand le précédent ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, disait au bac, il faut sanctionner dans les dissertations plus fortement les fautes d'orthographe. Pour vous, est-ce que ça pourrait être une solution ?
Non. Je vais être très claire. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'il faut une certaine maturité cérébrale pour acquérir toutes ces règles et pour les retenir. Et on devrait s'amuser avec l'orthographe, l'apprendre en s'amusant et sanctionner l'orthographe. Enfin, moi, je fais souvent la comparaison. Alors, encore une fois, je reviens sur la différence entre orthographe lexicale et grammaticale. Grammaticale, c'est savoir bien accorder, bien conjuguer ce qui sous-tend qu'on doit comprendre la phrase qu'on écrit, qu'on doit avoir une vue d'ensemble. Et l'orthographe lexicale, c'est un peu bête et méchant, on apprend par cœur et on a une bonne mémoire orthographique ou non. Et je compare ça souvent à la mémoire des visages. Quand vous n'avez pas une bonne mémoire des visages, on ne vous juge pas. On ne vous dit pas, mais excusez-moi pour le mot, t'es vraiment con, tu ne sais pas reconnaître deux visages. Or, quand vous faites une erreur, vous ajoutez un P, vous enlevez un L, on vous dit, va t'acheter un Becherel, va regarder dans le dictionnaire, t'es vraiment bête. Mais on voit, vous regardez sur les réseaux sociaux, dès qu'une personne fait une erreur dans un texte, il est jugé de manière très violente. Et de dire que l'orthographe va être jugée au même niveau que la compréhension, que la rédaction, que quelque chose de riche. Le vocabulaire, par exemple, on devrait vraiment mettre l'accent sur la richesse du vocabulaire plutôt que s'embêter à apprendre toutes les petites exceptions d'orthographe lexicale. Ça, il faudrait virer, apprendre à utiliser le correcteur, point.
Une chose, Christophe Benzetou, j'en parlais tout à l'heure de ce sondage. On parle souvent en fait aussi des études qui montrent que des élèves d'aujourd'hui feraient plus de fautes qu'auparavant, mais aussi cette perception qu'ont les Français sur leur propre orthographe. On est toujours persuadé que la faute, c'est l'autre, que nous, en fait, on écrit mieux que l'autre. Comment ça se fait, ça aussi ? C'est assez étonnant quand même comme réflexion de notre part.
On a un regard complètement décalé par rapport à son niveau réel. Mais à mon avis, c'est pas vrai que pour l'orthographe.
Oui.
On se voit beaucoup plus beau que ce qu'on est en réalité. Donc ça, c'est pas très original.
Et l'orthographe en fait partie, en effet. Non, mais oui. De se permettre de dire à quelqu'un sur les réseaux sociaux, ah non, alors je lis pas ton message parce que tu fais une faute, ça veut dire que soi-même, on s'estime meilleur.
Il y a ça, et en même temps, quand vous regardez, alors si on peut prendre des exemples très très précis, quand vous regardez les gens qui reprennent systématiquement les personnes, y compris les personnes qui écrivent directement à la médiatrice de Radio France pour se plaindre du niveau déplorable de langage des journalistes, ce qui n'est pas le cas. Les journalistes de Radio France parlent très bien, ils s'expriment tout à fait correctement.
Ça dépend.
Non, majoritairement, ils s'expriment tout à fait correctement, et nettement mieux que la moyenne de la population. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là qui vont écrire, parfois font des fautes d'orthographe aussi dans leurs messages, et ne voient pas eux-mêmes que, en fait, elles s'expriment de la même façon, et sans doute nettement moins bien que la plupart des journalistes. Et donc, on est beaucoup plus enclin à critiquer son voisin qu'à voir soi-même ses propres fautes, alors que tout le monde en fait. Enfin, c'est à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a, on va dire à la louche, 1% de la population qui domine à peu près le code orthographique. Ça fait vraiment pas beaucoup, en fait. Donc, il y a une discrimination d'ensemble qui porte sur tout le monde. Et après, ce qui va jouer, en fait, c'est plus sa position sociale que son niveau linguistique.
Alors, on va parler dans un instant aussi de l'enseignement de ce français, ce qu'il faudrait faire ou non pour améliorer ce niveau, en tout cas, d'écriture, voire de français parlé. On en parle dans un instant dans le débat de midi. Avant ça, un artiste bien français, c'est Chigo González avec French Kiss.
Je vous French Kiss. Je vous French Kiss.
Thank you.
Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Macala, oui. Je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Bla bla bla, etc. Patati patata, je viens du Canada. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Je vous French kiss avec la langue française. Je vous French kiss en chantant la Marseillaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je raconte triolé, votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps, beaucoup de romans, beaucoup de films d'Yves Montand. Avec mon petit accent, si charmant, et je comprends que je manque de maîtrise, mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple, le mien est compliqué comme un labyrinthe. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert, je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai Céfran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss. Éclair au chocolat. Je vous French kiss. Pomme de terre, en robe de chambre, en robe de chambre, comme Robespierre. Je vous French kiss. L'hexagone, Lexa Gonzalez, Chili Gonzalez, Hexagone.
Le débat de midi. Sur France Inter.
Le débat de midi, on parle du français, cette langue française, on l'a dit souvent, en danger. On voit que ce n'est pas forcément le cas. Hein. On en parle justement avec Christophe Benzitoun, vous êtes expert en français parlé, orthographe, grammaire, enseignement de l'oral. Également Aurore Ponsonnet, ancienne orthophoniste, créatrice d'une méthode de grammaire simplifiée. Également Louise Touret, journaliste éducation à France Culture, notamment dans l'émission Être et Savoir. Alors vous êtes assez nombreux hein, à nous poser de nombreuses questions, des choses parfois très concrètes où il faudrait que nos invités tranchent absolument. Ça, on sent bien les discussions en famille pendant l'été où on veut absolument connaître l'orthographe. Ça sera pas forcément le cas, mais il y a des choses assez intéressantes, notamment beaucoup de questions. On le voit aussi, ça, Christophe Benzitoun, alors de la part de Cyril, également de Fabienne ou de Martine, que ce soit par WhatsApp ou sur notre appli France Inter, sur l'anglicisme. Beaucoup font le lien entre, alors éventuellement, baisse du niveau de français et ces anglicismes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ces anglicismes de plus en plus présents, notamment un enseignant en informatique qui nous dit ça. Moi, j'ai souvent de l'anglicisme dans mes cours, obligatoirement par rapport au programme que l'on peut mettre en place.
Alors, j'ai deux réponses à apporter. La première, c'est qu'il y a plus de la moitié du vocabulaire anglais qui est emprunté à l'étranger. Et quand je dis plus la moitié, c'est beaucoup plus que la moitié. Et a priori, l'anglais se porte très bien. Donc, oui. Les emprunts à des langues étrangères, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la manière dont on le perçoit, encore une fois. Et pour prendre encore une fois un autre exemple, une autre illustration, en 1888, un article du Figaro dénonçait le fait que à Paris, il y avait des enseignes qui étaient lavatories pour des coiffeurs. Lavatory a disparu. D'accord. Vous allez avoir du mal à trouver des enseignes lavatory à Paris.
Confirme.
Et aujourd'hui, on dit coiffeur. Et parfois, voilà. Alors, aujourd'hui, on va rajouter barbeur. Et dans 10 ans, ça aura aussi disparu. En fait, c'est juste des phénomènes de mode qui viennent et qui disparaissent. Et on a une perception d'augmentation du nombre de mots anglais, ce qui n'est pas le cas.
Oui, c'est ça aussi. En effet, sur l'anglicisme souvent reproché, et même, d'ailleurs, je reprends, puisqu'on parle beaucoup de nos auditeurs très à cheval aussi sur le français, qui nous reprennent souvent, d'ailleurs, sur les termes anglais qu'on peut utiliser à l'antenne. Pour vous, l'anglicisme et pourrait être un des facteurs
Moi, je trouve ça très bien que les élèves, et les enfants et les jeunes s'intéressent à d'autres langues. En fait, il y a deux choses. Il y a une utilisation d'un vocabulaire anglais qui peut être assez désagréable parce qu'on jargonne, on ne se comprend pas. C'est vrai que c'est bien si à l'antenne, quand on s'exprime, les invités y compris, on peut être compris par un maximum de gens. Donc souvent, c'est des anglicismes aussi de milieu professionnel. On connaît la pub, le marketing, tout ça. Et puis après, il y a ces mots qu'on transforme comme « spoiler » et qu'on on dit « c'est short ». En fait, pour dire c'est court, bah, bref, on prend des mots anglais et on les met dans le français.
Divulgâcher, le fameux divulgâcher.
Oui, oui, mais ça sonne bizarre.
Ah bah oui.
Donc, j'adore.
C'est vrai que on transforme des mots anglais en mots français. Et ça, c'est le génie du français. C'est-à-dire qu'on rajoute ER, on fait un verbe du premier groupe.
C'est vrai que
et
c'est
on le conjugue
mal.
Autant qu'on veut.
Stabilo-bossé, par exemple.
J'ai une ado chez moi qui consomme énormément de séries en anglais. Je trouve ça formidable. Et parfois, c'est vrai que je note des petits anglicismes. Je pense que c'est parce qu'elle est un peu dans son trip, pour reprendre un mot anglais, et qu'elle maîtrise le français, et que dans une situation scolaire, elle parlerait différemment. Et c'est ça qui compte.
Et oui,
c'est ça.
C'est ça qui compte. Et c'est
le contexte.
Le contexte dans lequel on s'exprime, et ça, les niveaux de langage, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants, et on le fait souvent à l'école. Hein. Le langage familier, le langage soutenu, le langage écrit, ça passionne les gamins, vraiment. Et quand on fait des ateliers orales, des ateliers oraux à l'oral, oraux et des ateliers radio avec les élèves, je leur dis, voilà, comment vous voulez organiser votre émission? Est-ce que vous voulez être en langage familier? On fait une émission sur un sujet qui vous intéresse et vous tutoyez. Où est-ce qu'on passe au vouvoiement? Et on se lance dans le langage soutenu et on voit comment on y arrive. Finalement, tout ça, c'est une question d'exercice. Il faut avoir des occasions de s'exercer. Et ça, c'est aussi le travail de l'école. Donc, comment on parle, comment on s'entraîne à parler, puis ensuite à écrire, dans des situations suffisamment variées. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop nombreux dans les classes et qu'il faut que les enseignants aient du temps pour pouvoir acquérir, et ça commence même à la crèche, pour pouvoir acquérir à la fois du vocabulaire, de l'aisance à l'oral, et après choisir comment on a envie de parler. Parce que moi, je n'ai pas à imposer à des gens, dans la vie normale, de s'exprimer de telle ou telle façon.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va le voir ça dans un instant aussi, mais on va écouter tout de suite une note vocale que Jean-Philippe nous a laissé sur l'appli Inter. Jean-Philippe qui nous appelle d'Angers et qui lui va encore parler justement de la langue utilisée par les professionnels et notamment les journalistes.
On se pose la question du français des élèves, mais on ne se pose pas la question du français de ceux qui sont censés l'enseigner. J'ai pu constater une baisse de la syntaxe de nombreux, chez beaucoup de gens, des enseignants, des journalistes et de ce que peuvent entendre dans tout ce que peuvent entendre les enfants. Est-ce que c'est pris en compte dans l'analyse?
Voilà, une note vocale laissée par Jean-Philippe, hein, d'Angers sur l'appli France Inter. Alors, forcément, Aurore Ponsonnet, il y a d'autres messages autour de ça. Quelqu'un qui nous dit, moi je suis diplômé d'école d'ingénieur, j'ai vu énormément de problèmes de conjugaison aussi dans mon enseignement. Plusieurs médecins qui ont fait pourtant de hautes études, et c'est aussi toujours la même question, c'est-à-dire en gros, est-ce que le langage, vous disiez en effet qu'on confond souvent les deux, et pourtant c'est assez prégnant. Aujourd'hui, est-ce que, tout simplement, ce que disent aussi d'autres auditeurs sur WhatsApp nous disent, le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez d'heures de français. Est-ce que ça passe par là aussi?
Alors, ça c'est un fait. Il y a 800 heures d'enseignement spécifique de la grammaire et de l'orthographe en moins par rapport à quelques décennies entre le CP et la terminale. Donc évidemment, faire entrer toutes ces règles et toutes les exceptions avec 800 heures de moins, c'est impossible. Et la maturité cérébrale est très importante. Je vous donne un exemple personnel. Moi, je faisais toujours partie des bonnes en orthographe parce que ça, je m'éclatais en orthographe. J'adorais ça, j'adorais la grammaire. Je levais tout le temps la main pour, pas dans les autres matières, mais juste cette matière-là. Et je suis retombée sur mes journaux intimes.
Ah.
Et dans mes journaux intimes, je ne maîtrisais pas encore complètement l'orthographe. Pourtant, je faisais partie des élèves qui s'intéressaient à l'orthographe, qui adoraient ça. Et je vois que ben, mon orthographe s'est améliorée au cours du temps jusqu'à la fameuse prépa pour entrer à l'école d'orthophonie où là j'ai encore appris des choses et je ne cesse d'apprendre des choses. Et cette matière, on ne peut pas la maîtriser totalement. Donc la juger dès l'école primaire alors qu'on est au balbutiement, on est en train de comprendre des concepts très abstraits, de l'accord, de la conjugaison, et je ne parle encore pas de cheval qui fait pas cheval mais chevaux. Pourquoi ? Alors justement, ça c'est passionnant. Il faudrait, moi à mon avis, hein, j'ai plein d'idées.
Mais je vois ça.
Mais déjà, introduire la grammaire historique. Parce que ça,
c'est-à-dire
ça
apprendre
passionne.
D'où vient le mot, en fait, c'est ça, par exemple.
D'où vient le... Alors ça, c'est l'étymologie pour l'orthographe lexicale. Mais la grammaire historique, c'est-à-dire, bon, déjà refaire du latin et du grec, ça c'est très intéressant, c'est passionnant. Et dire aux élèves... Pourquoi on en est venu à écrire le futur comme ça? Comment, quelle forme il avait avant et comment il a évolué? Et de comprendre l'évolution de la grammaire. Et ça, ça passionne. En fait, les enfants ont besoin de comprendre pourquoi. Et c'est aussi la génération du pourquoi. On veut savoir pourquoi on doit bien écrire et d'où ça vient, comment on écrivait avant. Ça, ça passionne.
Voilà, et c'est exactement ce que nous dit Fabienne aussi hein, sur l'appli Inter. Pourquoi il y a un H, par exemple, à hibou, hippopotame, haricot, alors qu'on pourrait s'en passer. Mais pourquoi la langue française est si spécifique et alors peut-être riche là-dessus. Voilà, c'est des fameuses questions et l'histoire de la grammaire pourrait nous aider à le résoudre. Christophe Benzetoun, le fait d'avoir réduit aussi ces cours de français, beaucoup de profs de français nous disent, bah oui, mais parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une baisse du niveau orthographique, mais on apprend davantage de choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle d'histoire de l'art. En effet, quand on passait un certificat d'études, on ne parlait pas d'histoire de l'art à l'époque. Est-ce que c'est ça aussi? C'est cette diversité qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignement est différent d'auparavant?
En fait, il y a un choix de société à faire. C'est-à-dire que le niveau monte globalement. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans la société française, un élève d'aujourd'hui a plus de connaissances qu'un élève d'il y a 50 ans ou 100 ans. Mais il y a une diversité des disciplines, une diversité des connaissances. Il y a de l'informatique, il y a des langues étrangères, donc il y a tout ça. Et donc, il y a un choix de société à faire. Est-ce qu'on veut former des champions de dictée à grande échelle? On est capable de le faire, mais ça veut dire qu'on va condamner d'autres matières et d'autres connaissances. Mais c'est un choix à faire. C'est-à-dire, il y a vraiment un débat national à avoir autour de ces questions-là. Il y a un problème, donc on ne le nie pas, de niveau en orthographe. Il y a des solutions à apporter. Il y en a plusieurs solutions possibles. Mais si on veut vraiment remonter le niveau, soit il faut augmenter le nombre d'heures d'enseignement, j'y crois moyennement, soit il faut prendre du temps sur d'autres disciplines, et c'est un choix global. Oui. Mais il y a un choix à faire, et il faut arrêter en fait, de juste dénoncer la baisse du niveau en orthographe et ne pas apporter de solution autre qu'on va faire des dictées. Parce que les dictées, ça n'a jamais disparu. Oui. On a toujours eu des dictées. Donc les dictées, ça n'est pas une solution. Il faut des solutions de fond.
Ce qui ne disparaît pas, c'est de recommander de faire des dictées quotidiennes, oui. Etc. Mais... ça pose une question pédagogique intéressante à laquelle je n'ai pas franchement de réponse. C'est comment, en fait, l'école transmet et évalue dans le même mouvement. Si on évalue l'orthographe en même temps qu'on en transmet les règles, si on met des notes, si quelque part, il y a des élèves qui vont s'avérer être bons, d'autres moins bons et d'autres mauvais, qu'est-ce que ça produit sur les individus en question? Est-ce que ça va les encourager ou est-ce que ça va les décourager? Et moi, je me demande s'il n'y a pas un phénomène de découragement avec, on leur dit, les effectifs des classes, le fait qu'il y a des profs de français qui ne sont pas remplacés dans certains établissements, etc. Tous les problèmes de l'école. Donc, comment on fait pour transmettre des connaissances sans avoir une vision punitive de l'apprentissage qui permet à tous les enfants de progresser? Mais énorme question pédagogique, ça concerne aussi les mathématiques après tout.
Bien sûr.
Et en expliquant aux enfants que c'est tout à fait à leur portée, qu'il n'y a pas d'enfants qui sont inaptes à s'exprimer, qu'on va progresser toute sa vie, et que même les gens spécialistes en orthographe n'ont pas toutes les réponses, et que donc, c'est pour eux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que l'école doit aussi dire. C'est peut-être un peu ça la difficulté de l'école française, pas forcément des enseignants, parce que eux, ils font ce qu'ils peuvent dans un système qui est porteur aussi d'une histoire, d'une logique, d'une philosophie propre, dont ils sont pas forcément entièrement dépositaires en tant qu'individus.
Mais Aurore Poncenet, on met aussi, là je vous fais tous les clichés hein, véritablement là-dessus, mais on met aussi en cause le rôle des écrans. Alors ça, c'est en premier, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi là, en même temps comme question, beaucoup de parents en parlent. Clairement, est-ce que les écrans font baisser le niveau d'orthographe et le niveau en français?
Alors, l'écran...
La consommation d'écran.
Oui, mais les enfants et les adultes.
Bien sûr.
Parce que nous sommes tout le temps sur nos écrans. Enfin, il y a une addiction aux écrans qui fait que, on disait tout à l'heure qu'on lit un peu moins qu'avant aussi, parce qu'on est absorbé par nos écrans. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est que l'orthographe, j'en parle souvent, elle se développe aussi en écrivant avec un stylo. Et que c'est ça qu'il faudrait ne jamais laisser tomber, c'est l'écriture manuscrite. Parce que donc les écrans, c'est très bien pour apprendre plein de choses. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se développent grâce aux écrans aussi, dans la pédagogie. Hein. On apporte le numérique à l'école. Mais il faut revenir au stylo, ne plus faire que des QCM. Et l'orthographe et l'écrit en général se développent grâce à l'écriture manuscrite, parce qu'on a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire visuelle et il y a la fameuse mémoire kinesthésique. C'est la mémoire du geste. Or, quand vous écrivez plusieurs fois de suite un mot ou même une phrase entière pour comprendre comment elle est organisée, vous allez déjà retenir parce que vous avez fait un mouvement. Exemple avec les doubles consonnes. Si vous avez écrit en un peu plus gros le fameux « appeler », eh bien les deux « p », vous savez, dans votre bras, vont s'imprimer comme un geste qu'on va pouvoir faire et refaire. Donc déjà, l'écriture manuscrite. Et surtout, quand on écrit avec un stylo, on anticipe. Ce qu'on ne fait pas quand on écrit sur un clavier, sur un écran.
On écrit instinctivement, en fait.
C'est-à-dire qu'on réfléchit avant d'écrire. Mmh. Parce qu'on n'a pas envie de barrer 18 fois et de refaire et d'avoir des ratures. Donc là, on va taper. Après, on sait qu'on va pouvoir faire du copier-coller sur un clavier. Et ça, c'est vraiment la réflexion avant d'écrire. C'est très important de repasser par le stylo. Ouais,
d'ailleurs, les textes à trous, dans des... Voilà, des exercices scolaires avaient été dénoncés par des ministres en disant voilà, il faut faire écrire davantage les élèves dès le CE1, CE2, enfin à la mesure de leurs possibilités. C'est l'été, écrivons des cartes postales. Mmh. C'est vraiment très important.
Même en copie, même copier quelque chose. Il faut que ça passe par
de rédiger. Après la mémoire kinesthésique, moi j'ai mis un L majuscule, j'écrivais Louise, c'est mon prénom au lieu d'écrire lundi parce que voilà.
Oui.
mais c'est vrai que il faut prendre le temps d'écrire, de rédiger des textes libres d'imagination, ça c'est aussi rappelé par des professeurs, il faut que ce soit aussi des exercices demandés au bac, valorisés, et ça l'est beaucoup moins qu'avant, dans le cours de la scolarité, et il faut arriver à faire lire les enfants pour les écrans. Je sais pas, mais parents, ne pensez pas que mettre les enfants devant un iPad, c'est forcément bien, on peut peut-être apprendre des trucs, mais lire des livres... Évidemment, moi, ça m'a jamais donné une bonne orthographe
au point
où j'aurais voulu. Mais en tout cas, ça permet de se familiariser avec des tournures du français qu'on va pas forcément utiliser, mais qu'on connaîtra. Mmh. Et pouvoir, ça veut pas dire que les gens qui lisent pas sont débiles, hein. Mais lire, c'est quand même quelque chose que les enfants en général aiment bien faire si on leur a lu des histoires, et ça permet d'acquérir beaucoup de vocabulaire et beaucoup de... Voilà, de savoir sur la langue.
Alors, on dit souvent, les enfants ne lisent plus, mais il faut qu'ils voient leurs parents lire, déjà. Parce que si tout le monde est sur un écran à la maison ou devant la télé, il faut un modèle. Et alors, la première des choses, quand j'étais orthophoniste avec des tout-petits, je disais, il faut lire à haute voix. Il faut, par exemple, que ce soit un exercice à deux, on lit chacun. Il ne faut pas dire, mais tu ne lis pas assez, tu ne vas pas développer ton orthographe, ta langue française. Il faut lire ensemble. Et maintenant, il y a des livres audio. Moi, j'adore ça. Il y a des jeunes qui commencent à écouter des livres audio. C'est déjà un premier pas. Il faut qu'il y ait un peu des deux, je pense. Mais lire avec le parent, faire des séances, vous savez, comme on était au coin du feu avant. Parce que c'est un vrai plaisir. On entre dans un autre monde et effectivement, on développe son vocabulaire, la structure des phrases. C'est tout ça qui se développe.
Et heureusement que l'école est là pour faire lire. Parce que
il y a ça. Et aussi, il faut savoir que parfois, le goût de la lecture peut arriver sur le tard aussi.
Oui.
Donc, la pression, ça peut arriver. Hein, tout à fait. En effet, Christophe Benzitoun, pourquoi finalement, dès qu'on parle de cette langue vivante, de ce français, on le voit, là, si je lançais, par exemple, un débat sur l'accent circonflexe, je sens que là, ça prendrait, on pourrait en parler toute la journée. Pourquoi en France, on voit vraiment le côté politique à la langue ?
Parce que la langue est politique. Alors, il n'y a pas qu'en France. Hein. La langue est éminemment politique. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, l'Académie française a fait évoluer l'orthographe. Alors, pour prendre un exemple tout bête, les gens, à l'heure actuelle, s'étripent sur l'accent circonflexe ou sur le i de oignon ou autre. Le i de oignon avait disparu en 1798. Être, au départ, on l'écrivait E-S-T-R-E. Et donc, si on avait la même conception aujourd'hui qu'on avait la conception avant, en fait, on parlait latin. le français n'existerait pas. Donc ça n'a juste pas de sens pour un linguiste de penser que parce qu'un jour, quelqu'un a décidé de mettre un accent circonflexe, il est intouchable. Le problème de l'accent circonflexe, c'est qu'on va mémoriser le mot globalement et que on va retenir qu'il y a quelque part sur une lettre, généralement un E, un I ou un U, un accent circonflexe, et on va se dire, tiens, sur ce mot-là, il y a un accent circonflexe quelque part, mais on ne sait pas où. Et donc, ça va engendrer des erreurs au lieu d'en enlever. Et donc, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'institution qui fait vraiment ce travail-là d'évolution de l'orthographe pour l'adapter à son époque. L'orthographe qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout adaptée à notre époque. Elle était adaptée à une époque où il y avait peut-être 10% de la population qui écrivait, qui maîtrisait très bien le latin et le grec, et on n'avait pas du tout prévu qu'aujourd'hui, la majorité, et là, voire la totalité des enfants, iraient à l'école. Mmh. Donc on a une orthographe, en fait, qui est complètement décalée. Et donc la question idéologique et politique, c'est celle-là. C'est de dire comment on fait pour adapter l'orthographe à la situation moderne. Sachant qu'il n'y a jamais eu d'époque où une majorité de la population, depuis que l'école est obligatoire, maîtrisait bien l'orthographe.
Ouais, et pourtant, l'enseignement est obligatoire depuis un certain temps maintenant.
On ne l'a jamais mise à jour.
Ah, d'accord.
Voilà, depuis que la... En fait, il n'y a pas eu de réforme d'orthographe d'ampleur depuis qu'il y a l'enseignement obligatoire.
C'est intéressant, c'est quand on met en place des réformes de l'orthographe, en fait, les gens ne s'en emparent pas. Du coup, moi, j'ai une embrouille sur les accents dans événements, parce qu'il y a une réforme.
Oui, voilà, vous allez vous en parler, justement.
Je ne sais pas.
Les deux.
Je crois que les deux, enfin, accent grave ou accent aigu, peuvent s'écrire, mais... Évidemment, on a un attachement, et c'est sûrement très politique, un peu conservateur à l'orthographe. Moi, je pense que le fait de politiser le sujet, ça fait pas forcément du bien à l'orthographe, c'est-à-dire que c'est pas... ça devrait pas être un sujet si politisé. C'est pas parce que on est progressiste qu'on n'aime pas l'orthographe. C'est pas parce qu'on est conservateur qu'on écrit forcément bien etc. Et peut-être s'accorder sur une forme. C'est comme la politesse, c'est-à-dire qu'on se relie un petit peu quand on écrit à quelqu'un. On essaye de bien s'exprimer quand on veut se faire comprendre. Et pour le reste, on arrête peut-être de se juger à l'emporte. Pièces les uns les autres sur le niveau de langue, parce que ce qui compte, c'est de parler.
Oui, c'est ça.
Ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire.
Et comprendre.
Et pourquoi les élèves n'acquièrent pas forcément un bon niveau de langue, c'est peut-être parce que certains ne voient pas l'intérêt qu'il y a à s'exprimer en public, à écrire sans faute d'orthographe. Et ça, ces objectifs-là, il faut les comprendre et se les approprier en tant que personne pour progresser. Parce que juste pas faire de faute d'orthographe pour pas faire de faute d'orthographe, peut-être que pour certains, ce n'est pas un objectif suffisant.
Et en fait, il faut prendre du recul quand même. C'est ça qui est dingue, c'est que l'orthographe, comme disait Christophe, c'est un code. Il y a un écart énorme entre la langue parlée et écrite. On exige à l'écrit une langue qui est différente de celle qu'on parle. Ouais. Alors, je reviens sur les critiques que vous recevez tout le temps en tant que journaliste. Moi, ça m'énerve parce que si j'écris, je vais me concentrer sur tous les mots que j'utilise, je vais me relire, je vais faire très attention. Et je suis sûre que là, depuis le début de l'émission, on a tous et toutes commis des petites erreurs comme ça, de syntaxe,
notées,
de grammaire.
Je vous dirai à la fin,
voilà, voilà. Et c'est évident parce que vous mettez n'importe qui dans cette situation de parole spontanée. Vous réfléchissez, vous parlez, et il y a des choses qui arrivent, des idées qui arrivent. Je suis sûre que j'ai dit des « e », des « du coup », mais c'est évident. Et à l'écrit, je vais faire très attention. Et pour moi, l'orthographe, et pour beaucoup de gens, je trouve que la plus intéressante des orthographes, c'est celle qui est porteuse de sens. Donc oui. Alors, par exemple, si je dis je serai là demain. Alors il y a aussi des discussions sur les fameux accents. Est-ce qu'on dit serai dans certaines régions, on va vraiment différencier les deux. Dans d'autres, pas du tout. Moi, je ne fais pas la différence à l'oral. Alors oui, la différence entre un conditionnel et un futur, c'est porteur de sens. Ok, donc là, le S, il est porteur de sens. Un S pour dire que c'est du pluriel, c'est porteur de sens. J'ai eu beaucoup de chance. C'est de la chance ou des chances à un jeu. Bon, là, c'est porteur de sens.
C'est porteur de sens et je vous propose même de continuer à en parler, mais dans un instant.
Ah, d'accord.
Parce que juste avant, on va se détendre un petit peu. Mais oui, je vois ça en tout cas, parce qu'avec d'autres langues aussi qui existent, autres que le français, c'est notamment l'anglais et elle est très bien chantée par Feist avec The Red Wing.
shadows go long on the walk, across the ice on the lake. The future of December is memories of last summer. So I stoke it like a wood stove. I'm always wanting more. The endless weight of my life can be lifted up like wings. The underneath of my life, an effortlessness hidden sings.
Le débat de midi, on parle du français, de la maltraitance ou non de cette langue, puisqu'il paraît que nous sommes en pleine décadence, aussi bien orthographique, grammaticale et au niveau de l'oral. Et pour en parler, nous le faisons avec Christophe Benzitoun, qui est expert en français parlé, Aurore Poncenet, ancienne orthophoniste, créatrice d'une méthode de grammaire simplifiée, et Louise Touret, journaliste éducation à France Culture. Vous en parliez juste avant le titre, Aurore Poncenet, de ce terme des élites. Christophe Benzitoun, est-ce qu'on peut dire que, comme le dit M. Cassel 44, hein, voilà, bon, sur WhatsApp, tout ça, c'est aussi, on fera une émission aussi sur les pseudos, l'orthographe est un moyen de conservation de la classe des élites, entre guillemets, ou qui se prennent pour telles. Il faut simplifier l'orthographe malgré l'opinion réactionnaire de certains.
Oui, je n'irai pas jusque-là, voilà. Mais c'est une opinion réactionnaire. Mais
est-ce qu'il y a un côté élitiste
ou pas ? Il y a un côté complètement élitiste de conserver son pouvoir. Et quand on regarde justement les textes préparatoires du premier dictionnaire de l'Académie française, donc qui a décidé plus ou moins l'orthographe qu'on utilise aujourd'hui.
Ça date de quand, ça, hein ?
Alors, c'est 1690, voilà, autour de 1690, donc ça date, ça, ça date bien longtemps. Ce qui était écrit, en fait, c'est que l'orthographe choisi par l'Académie devait distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Et c'est ce que ça fait toujours. C'est-à-dire que l'objectif initial est toujours là. Ça permet très bien de faire son œuvre, à savoir de distinguer les initiés, ceux qui ont la possibilité d'accéder à cette connaissance-là, et ceux qui n'y arrivent pas et qui n'ont que l'école pour y arriver. Mmh. Et donc, voilà, depuis 4 siècles, à peu près 3 siècles et demi, l'orthographe qui a été choisie permet très très bien de faire cette distinction-là.
Mais c'est aussi une conquête du peuple. Et c'est aussi pour les gens qui ont réussi à passer des degrés scolaires, je pense à ma grand-mère qui avait été première au certificat d'études, quelque chose de très valorisant. C'est-à-dire accéder à une maîtrise très noble, finalement, de la langue, qui s'est associée à une forme de progression sociale, hein, pour beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je fais une espèce d'analyse historique. Et c'est aussi ça qui explique l'attachement à la dictée. On est quand même un pays où on organise des dictées géantes.
Bah, sur les Champs-Élysées, avec, notamment.
Oui, et France Culture est associée à ce genre d'opération avec des centaines de personnes. Moi, j'ai trop peur, je ne dirais pas. Mais voilà, ça plaît à pas mal de gens aussi.
La fameuse dictée de Bernard Pivot, ce qui était télévisé,
oui,
hein, tout de même.
Hein. Cette espèce de langue, c'est vrai, un peu conservatrice, à laquelle il faut se plier, mais quand on y arrive, peut-être que ça procure un certain plaisir. En tout cas, l'attachement, je pense, à l'orthographe en France est très réel et on est un peu bloqué. Je pense que si les réformes précédentes n'ont pas fonctionné, je suis pas sûre qu'on arrivera dans le futur à réformer cette langue qu'on parle et qu'on manie toujours comme on veut. Ça va rester encore longtemps le travail de l'école.
Le problème principal, en fait, c'est la question des inégalités d'accès à cette forme-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que c'est un ascenseur social. Mais en même temps, quand on regarde toutes les études qui sont publiées sur le sujet, à chaque fois, en fonction de votre milieu d'origine, effectivement, il y a des gens qui arrivent à passer ça.
Je suis d'accord
avec
vous.
Mais globalement, il y a 50% d'une classe, enfin, à 15 ans, donc, enfin, un peu avant, au collège, il va y avoir 50% des élèves qui vont avoir des difficultés, alors pas forcément qu'à l'orthographe, mais globalement avec le langage scolaire en français, et 10% dans les quartiers favorisés. Donc il y a un vrai décrochage social et une vraie discrimination sur ces questions-là.
Mais on a gardé cette image.
Oui, tout à fait.
C'est une image aussi. À savoir que les mathématiques sont une discipline plus discriminante que le français.
Oui, mais qui sont liées peut-être aussi au français, parce qu'il faut comprendre les consignes.
Exactement, le vocabulaire mathématique, c'est pas facile.
C'est justement l'objet d'une question. On oublie trop souvent que le prof de français enseigne la matière qui permet de comprendre toutes les autres. Hein, voilà, il leur faut plus de temps et plus d'oralité en cours. Alors, Aurore Poncenet, on parlait de réforme éventuellement de l'orthographe. Et c'est vrai qu'en 2016, il y a eu des petites choses qui ont été faites, notamment on parlait de l'accent circonflexe. Il y a eu aussi le changement principal, donc accent circonflexe. Il y a eu coup sans accent circonflexe qui devient coup. Il y a eu aussi une liste de mots composés où le trait d'union est supprimé, notamment ceux qui comportent les préfixes extra, entre ou contre. Désormais, on peut dire que l'on a vu des extraterrestres et non pas des extraterrestres. Par exemple, ce genre de choses, c'est important ou pas? Est-ce que c'est ça qui fait un changement dans une langue et qu'on peut la comprendre et l'appréhender davantage, ou là on est vraiment dans l'ordre un petit peu du maquillage?
Alors déjà, cette rectification, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça réforme, c'est une rectification, est sortie en 1990.
C'est ça.
Et on résiste. Et en 2016, ce qui s'est passé, c'est que on l'a fait entrer à l'école. On a dit maintenant, tous les manuels scolaires vont être écrits en nouvelle orthographe. Et beaucoup de personnes ont du mal à s'en emparer. Ça n'a jamais été vraiment imposé dans les écrits. Les journaux choisissent et souvent, on ne la maîtrise pas. Moi, on me dit des choses tous les jours sur les réseaux sociaux. On me dit tu sais que maintenant on peut dire les haricots alors qu'avant on disait les haricots, mais ça c'est n'importe quoi cette réforme et c'est nul et puis on peut pas mettre d'accent circonflexe. Et en fait, les gens qui disent ça ne sont pas allés lire le texte officiel qui est en ligne, hein, vous tapez rectification de l'orthographe de 1990, et finalement cette rectification elle était toute petite en fait. C'est rien. C'est quelques lignes, c'est quelques petits points de détails. C'est vraiment rien. Et même ça, les gens ont crié, mais on fait un tollé. Parce qu'ils voulaient pas qu'on enlève l'accent circonflexe sur s'il vous plaît. Enfin, et c'était vraiment, et oignon, et nénuphar.
Mais
nénuphar a été le combat, en effet.
Il est enlevé. Ça embrouille un peu. Moi, ce que je note, c'est que les éditeurs jeunesse font un travail sur les textes, et j'ai de vieilles versions du Club des Cinq.
Bien sûr.
Et des nouvelles aussi. Et par exemple, on a nettoyé, et ça a fait aussi hurler des gens, de pas mal le passé simple des textes. Et c'est vrai que c'est assez lourd de lire des nous mangeâmes, un gâteau au chocolat. Enfin, j'ai pas le texte en tête, évidemment. Pour rendre ça plus... Voilà, pour que les petits Français d'aujourd'hui puissent les lire plus facilement, parce qu'on utilise moins, même à l'écrit, ce passé simple à toutes les personnes. Et peut-être que les modifications, elles se font là, c'est-à-dire là où on n'a pas forcément pensé à les regarder, pas avec des réformes officielles qui, je pense, embrouillent tout le monde, et dans des usages qui s'adaptent au temps présent. De toute façon, qu'on le veuille ou pas, Ça évolue, c'est nous qui parlons.
Bien sûr, ça reste une langue vivante, justement. C'est ça aussi. Il faut signaler le mot vivant. En effet, il y a des langues mortes, des langues vivantes. C'est ça qui est important. Une dernière chose, Christophe Benditoun. Alors ça, je ne sais pas, peut-être, le savez-vous, une personne qui n'a pas signé, en tout cas, sur l'appli interne, nous a laissé ce message. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier l'orthographe comme ont fait les Espagnols? C'est-à-dire, en Espagne, on a simplifié?
Oui, mais en fait, dans toutes les autres, la plupart des autres langues mondiales, on simplifie, oui.
Ah, on simplifie, bien sûr.
Mais après, simplifier, c'est pas la question. Ouais, la question, c'est pas de simplifier, c'est de la rendre plus accessible et de la rendre plus régulière pour être, comprise et de pouvoir prédire la forme orthographique d'un mot. Donc là, il y a un gros problème et un gros travail à faire de rationalisation de l'orthographe, notamment plutôt l'orthographe lexicale. Et sur l'orthographe grammaticale, notamment, il y a à supprimer les X et à généraliser le S du pluriel.
D'accord. Voilà. Ça, comme ça a pu être fait, Aurore Ponsonnet, ça pourrait, en effet, ça, c'est le genre de choses qui pourrait, parce que le fameux X, hein, vous savez, fameux, voilà, hibou, chouchou, enfin, toutes ces règles-là.
Mais toutes ces règles-là sont liées à une erreur ancestrale, enfin, parce que, on n'a pas compris un texte qui était écrit, on a cru qu'il y avait un X alors que c'était LS réduit OUS, enfin.
À cause d'une personne, en fait, on s'est fait avoir.
C'est ça, c'est qu'en fait, on a cru que c'était un X, donc on a dit, bon, bah maintenant on va mettre un X, et puis maintenant on va apprendre par cœur des listes qui font X, et d'autres qui font AL, et d'autres qui font O. C'est un casse-tête, ça n'est pas du tout intéressant. Franchement,
oui,
ça n'a rien d'intéressant de dire, attention, c'est chevaux et c'est pas cheval.
J'ai une fille de 5 ans, ça fait partie de mon travail.
Elle n'est pas très loin, alors attention.
Mais c'est pas intéressant, je trouve. En fait, ce qui est intéressant, c'est le sens, c'est le sujet, trouver le sujet du verbe. Ça, c'est intéressant.
C'est intéressant et c'est sans fin, en effet, un débat, parce qu'on aime parler du français, notamment sur France Inter. Merci beaucoup, en tout cas, Aurore Ponsonnet, Louise Touret et Christophe Benditoun d'être venus débattre sur le français au débat de midi. La réalisation de cette émission, c'était Étienne Bertin. À la technique, Henri Béret, qui a préparé cette émission, par Constance Villanoa, Aloïse Nollet, Mathilde Texier et Savannah Rueland.